Les élections municipales ont lieu les 15 et 22 mars. Dans ce cadre, on reçoit deux membres de la liste Mieux Ensemble. Patrice Bernard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la tête de liste et vous êtes accompagné d'une de vos colistières, Sybille Groisard. Bonjour.
Bonjour.
Patrice Bernard, quelles ont été vos motivations pour présenter cette liste Mieux Ensemble ?
Les motivations, elles sont grandes, même très grandes. Motivation, d'abord, c'est toujours intéressant de recruter, d'échanger et de pouvoir proposer à l'ensemble de nos concitoyens un projet pour l'avenir. Et là, depuis des mois et des mois, on travaille sur un projet. On va dire, on travaille depuis 8 mois sur un projet qu'on est en mesure de, effectivement, de proposer. Donc, vous avez reçu dernièrement, ces 15 derniers jours, vous avez reçu notre programme. Et cet après-midi, on va en parler un petit peu avec vous.
Sybille Groisard, pour vous, c'est une première, la mairie de L'Île-Dieu ?
Une première, oui.
Ou c'est en vie politique ?
Une première en politique aussi.
Un petit peu stressée par le travail qu'il y a à faire ?
Stressée, non. Non, parce qu'on a, eu des réunions. Patrice est venu me chercher pour des premières réunions et... il y a des anciens conseillers municipaux qui sortant, qui nous ont bien expliqué les choses. Et puis, voilà, c'est parti. J'ai réfléchi et je me suis dit, c'est le moment à 51 ans de t'engager dans la commune.
Patrice Bernard, simple ou compliqué de constituer cette liste ?
Bah écoute, comme on le disait tout à l'heure, non, c'est pas si compliqué que ça. Toujours est-il qu'il faut, il faut être organisé. Hein, c'est une question organisée. Donc, comme je le disais tout à l'heure, s'organiser, c'est très bien. D'abord, notre volonté primaire, c'est d'apporter un nouveau souffle, travailler dans l'échange, le respect et le dialogue. Ça, c'est notre philosophie. Et pour répondre à ta question, c'est pas au dernier moment qu'on va chercher des colistiers. Ce travail, je l'ai mené depuis le printemps dernier. Et petit à petit, j'ai construit l'équipe. Je souhaitais effectivement construire l'équipe, mais avec des personnes de tout horizon. Toute raison, de toute classe sociale. Il était important pour nous de ne pas présenter 29 îlets de souche. Il fallait vraiment avoir une ouverture d'esprit au plus large. De toute façon, il faut aller chercher des compétences des femmes et des hommes. Et on est allé chercher, à ce niveau-là, des compétences avec des femmes et des hommes. Et je suis fier de l'équipe que nous avons composée, car on est en mesure, nous, on a présenté 29 candidats, et on avait en moyenne 35 personnes qui travaillaient avec nous, dont le choix était assez délicat à la fin, car quand on a trop de candidats, il faut faire des choix, mais ça s'est très bien passé.
Vous étiez déjà adjoint en charge de l'environnement dans la liste sortante. Quels étaient vos points de désaccord ?
Alors les points de désaccord, vous savez, quand vous avez fait 20 ans de vie de commune, où vous avez appris, travailler, suivi beaucoup de dossiers, travailler sur des dossiers comme le PLU, comme la redevance incitative, ces dossiers qui sont délicats, mais pas que. Donc j'étais en charge de l'aménagement du territoire depuis de nombreuses années. Et effectivement, quand vous apercevez le regard de l'environnement sur eux, donc j'ai contribué beaucoup à tout cela. Et donc c'était plutôt un problème de gouvernance. La gouvernance ne me convenait pas du tout, d'une part, et d'autre part, la philosophie d'avenir, où je pense qu'il faut regarder l'île peut-être différemment d'une chose, mais surtout travailler, surtout en équipe, car ça n'allait pas du tout. Je pense que les choix d'avenir, c'est pas les choix d'une personne, c'est les choix d'une équipe.
Comment définiriez-vous la commune de L'Île-Dieu, Patrice ?
Donc, la commune de L'Île-Dieu, c'est une commune qui est accueillante, conviviale, dynamique, où il fait bon vivre. Les gens de l'île, ce sont des gens généreux et qui ont beaucoup de cœur, qui sont toujours prêts à donner, mais aussi qui ne nous font pas de cadeaux. C'est-à-dire, quand ils ont des choses à dire, ils le disent. Ils sont très francs, et ce qui en font toute la richesse des insulaires, c'est vraiment leur authenticité. Et on a une chance chez nous, effectivement, non seulement d'avoir des habitants qui sont dynamiques et tout, mais aussi, on va dire, beaucoup de partage et d'échanges, ce qui en fait notre richesse.
Sybille Groisard, vous êtes d'accord avec Patrice Bernard ?
Oui, très très d'accord. Oui.
En 2016, le taux de chômage était de 14% sur L'Île-Dieu contre 11% pour la moyenne française, source INSEE. Quels sont vos projets pour l'emploi et l'économie ?
Donc là, il faut être très prudent. Il faut toujours Voilà, à chaque fois, on a toujours la même question qu'ils nous posent. On est à 14, des fois c'est un peu plus, des fois c'est un peu moins. On a effectivement beaucoup d'emplois saisonniers et c'est ce qui fausse le débat. Donc, quand vous allez chercher du personnel ou on vous regardez au Pôle emploi, vous vous apercevez qu'il n'y a pas tant de demandeurs d'emploi que cela. Hein, donc, c'est une source INSEE et là-dessus, il faut être très très prudent dans tout ce qu'il peut dire. Donc, qu'est-ce qu'on veut pour l'avenir? Qu'est-ce qu'on souhaite? Effectivement, nous, ce qui est important, c'est que chacun puisse y vivre et y travailler. Mais pour cela encore, voilà, pour travailler, et il faut travailler toute l'année. Il ne s'agit pas de travailler qu'en saison. Vous l'avez dit, ça fausse un peu la donne. Donc, ce qui est important, c'est étaler la saison. Donc, on aura notre devoir, c'est travailler avec tous les acteurs locaux pour travailler dans le minimum, au moins à la moyenne saison, hein, dans le cadre des animations, des fêtes, et effectivement de pouvoir tout faire pour que notre territoire soit attractif, pour faire venir encore un peu plus de monde au printemps, car le printemps, c'est déjà le début de la saison pour nous, mais il faut aussi prendre des démarches beaucoup plus grandes et plus ambitieuses. Tout d'abord, donc, dans le cadre de l'extension de la zone d'activité, et nous souhaitons construire une pépinière d'entreprise.
Qu'appelez-vous une pépinière d'entreprise ?
Alors, une pépinière d'entreprise, vous avez donc c'est multiples entreprises, ça peut être des bureaux, des services, des espaces partagés, ce qu'on appelle coworking, hein, c'est nouveau, mais avec la fibre optique de demain, nous allons avoir de plus en plus de télétravail sur notre territoire, et la fibre optique, c'est vraiment un boom pour nous, c'est vraiment, il va falloir tout faire pour que on mette à disposition des outils de travail pour que les gens viennent s'installer sur les lieux et y rester. Et l'avantage de mettre en place cette pépinière d'entreprise, comme ces espaces partagés qu'on souhaite faire aussi au quartier des usines, il a un atout primordial, ça veut dire c'est on a des femmes et des hommes qui viennent au printemps d'habitude, mais ils n'ont pas tous les outils pour pouvoir travailler. Donc par cette pépinière d'entreprise, par ces espaces partagés, demain on va pouvoir effectivement avoir plus de personnes qui puissent travailler sur notre territoire. Ce qui est important aussi, c'est d'acheter aussi local. Acheter local, ça aussi, ça, c'est entamer des consultations avec les produits et commerçants locaux pour les achats publics. Pourquoi ? Quand vous avez, par exemple, aujourd'hui, des EHPAD ou une cantine scolaire où vous avez 400 repas par jour et tout est pris sur le continent, donc là, il nous reste de la marge à suivre. S'il est anormal qu'on laisse se faire cela, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, pour nous, c'est important que nos cantines scolaires, nos EHPAD puissent être livré, fourni par des produits locaux et par les commerçants. Donc encore faut-il leur laisser la possibilité de le faire. Donc toujours dans le cadre du volet emploi. Donc c'est important aussi de nous trouver l'équilibre. On parle toujours d'équilibre sur l'île. On ne le dira jamais assez, mais la filière pêche...
Qu'est-ce que vous appelez l'équilibre ?
L'équilibre, par exemple, l'équilibre, c'est chacun y trouve sa place. Par exemple, vous prenez l'espace portuaire, on peut imaginer que à terme, si on ne laisse pas de la place, de l'espace pour la filière maritime, la filière pêche, à terme, la plaisance peut prendre le pas. Donc, il est important d'avoir cet équilibre, c'est-à-dire que chacun puisse avoir un espace pour travailler. Donc, quand on parle de filière pêche, c'est important de pérenniser le partenariat avec l'école de pêche, toujours dans la formation, mais aussi aider les marins pêcheurs à remplir leur mission.
La pêche, ça fait partie du patrimoine de l'île-Dieu. S'il y aurait moins de pêche, il y a moins de tourisme. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ?
C'est un tout. Hein, le tourisme, ce qui fait l'attractivité du territoire, c'est effectivement c'est la pêche, mais aussi les services et tout ce qu'on peut leur proposer, dont on va vous parler tout à l'heure. Concernant aussi j'attire votre attention, concernant aussi l'emploi, le quartier des usines, pour nous, on en fait notre fil rouge. Et c'est important. On le dira jamais assez. Aujourd'hui, on a une friche urbaine très très importante. Et qu'est-ce qu'on veut Quel regard on a quand on vient sur les dieux? Le regard qu'on a sur les dieux, malheureusement, c'est un regard qui est pas très glorieux, avec une friche urbaine assez importante, qui est entre autres la propriété de la collectivité. Donc on se doit, et nous on souhaite sur ce lieu, développer des commerces, y intégrer des espaces culturels, sociaux et associatifs et sportifs, aménager des bureaux et des espaces de travail partagé, accessible aux îlets comme aux visiteurs. Construire un lieu de rencontre et de partage. En fait, on veut faire un lieu de vie, et ce lieu de vie va permettre à pas mal d'entreprises de s'y installer. Et également, on veut y installer aussi des commerces, ce qui est important et ce qui manque sur notre territoire.
Sybille Grosard, en tant que commerçante, quel regard portez-vous sur l'emploi sur les lieux?
Quel regard en tant que commerçante, on travaille énormément l'été. Par contre, c'est vrai que hors saison, c'est un peu difficile. Faut développer ce moyen-là, mais par quel moyen? Par quel moyen? On va y réfléchir, on va travailler, on a quelques idées, mais.
Mais il faut que les gens arrivent sur l'île-Dieu et puissent se loger.
Oui.
Déjà, puis se loger. Ouais.
Ça,
déjà.
Ça, c'est la base.
C'est la base des choses, puis se loger, c'est sûr.
Qui dit emploi, on l'avait compris, à l'année où c'est saisonnier, dit emploi. Comment augmenter ce parc de logements sur l'île-Dieu?
Donc, et quand on parlait aussi, avant de parler logement, parce que c'est la base fondamentale. Avant de parler, quand on parlait de logement, c'est la base fondamentale, car effectivement, tu l'as dit, si on n'est pas en mesure de loger nos administrés, nos saisonniers, nos seniors, à un moment donné, on va perdre de la population, on va perdre du pouvoir d'achat. Donc, ce qui est important pour nous, hein, donc on le voit depuis le dernier recensement, on va franchir la barre des 5000, logiquement par rapport au recensement qu'on a mis en place. Donc voilà, c'est une bonne chose qui va nous permettre de toucher beaucoup plus de comment on va dire de d'aide de l'État. Hein, on va le fait de franchir la barre des 5000 habitants. Ça nous permet d'avoir au moins un peu plus de 300 000 euros qui rentrent dans les caisses de la commune. Donc, c'est du fonctionnement, ce qui va nous permettre d'avoir plus d'investissements.
Ce parc de logement, donc, alors?
Alors, le parc de logement, on en fait notre fil rouge de notre programme.
C'est le deuxième fil rouge?
C'est le deuxième, mais le deuxième fil rouge, il était important pour nous que si on veut maintenir une population, il faut que les gens puissent se loger. S'ils puissent se loger, ils peuvent y travailler. Et là-dessus, on lancera un grand programme d'accession à la propriété et un grand programme de locatif. Donc ça, c'est pour les gens à l'année. On a aussi la volonté de construire des logements pour nos saisonniers. Donc là, on a plusieurs solutions, on a plusieurs idées.
Quelle idée?
Donc, dans le cadre du regroupement des EHPAD, notre souhait, c'est de utiliser les espaces qui vont être disponibles, comme Calypso. À partir de là, l'aile centrale de Calypso, on souhaite le dédier aux seniors, car il y a une salle commune, ça peut être intéressant, effectivement, parce qu'à partir de là, on va pouvoir leur apporter des services, des soins et des repas, hein, de ce qu'on appelle des services à domicile. Et puis, toute l'aile droite, l'aile de Calypso, ça représente à peu près une trentaine de logements. Tout ça, on va pouvoir le dédier aux saisonniers. Donc, vous allez me dire, c'est à moyen terme, oui, parce que le regroupement des EHPAD, c'est pas avant trois ans, certes, mais également, qu'on souhaite aussi au niveau saisonnier, c'est construire des logements au Bossy pour nos saisonniers et construire des logements également au Petit Chiron. Donc, au Petit Chiron, on le fera à la marche, car surtout au Petit Chiron, ce que souhaite implanter, c'est notre parcours senior. Hein, et c'est un grand.
Qu'appelez-vous un parcours senior?
Le parcours senior, c'est des résidences seniors. Résidences seniors qu'on souhaite construire au site du Petit Chiron. Donc on fera le débat tout à l'heure avec le pôle culturel, si vous voulez bien.
Hein, j'allais y venir.
Oui. Dans le sens, Roland, que. Voilà. On regarde la démographie insulaire. En 2020, 40%, je dis bien 40% de la population a plus de 60 ans. Et si on ne fait rien. Là, il y a un boom démographique qui arrive. Et si on ne fait rien, nos aînés ne pourront pas tous rentrer au niveau des EHPAD, d'une part par le coût, et d'autre part par la place. Donc il est important, parallèlement, de construire des logements pour nos aînés, afin de leur apporter tous les soins nécessaires et les services.
Des logements autonomes?
Des logements autonomes, bien sûr.
En parlant des seniors, plus de 22% de la population est âgée de 60 à 74 ans et plus de 11% 75 ans et plus. Oui. Quelles sont vos propositions pour cette population dans le cadre de la santé et du maintien à domicile? Oui. Vous en avez parlé brièvement.
Oui, donc bien sûr, tu l'as dit, les chiffres sont parlants. Si on ne fait rien, on va avoir des soucis à court terme. Donc c'est important pour nous de lancer ce parc de logements. Le regard que portent aussi nos aînés, c'est qu'ils souhaitent, bien souvent, être à proximité du port. Même si vous habitez le bourg, la Meule ou ailleurs, on est très bien à Saint-Sauveur, très bien à la Meule, Mais le témoignage, plusieurs de nos aînés disent, nous on veut se rapprocher du port. Notre souhait primordial, c'est d'être à proximité des commerces et des services. Donc effectivement, d'avoir un parcours senior à proximité de l'hôpital et des commerces, c'est aussi pour eux un gage de sécurité. Mais évidemment, c'est pas le seul lieu. On est en négociation à ce jour avec d'autres parcelles qu'on souhaite acquérir dans le port pour permettre justement ce maintien de cette population senior autour des commerces et des services.
Après les seniors les plus jeunes, les 0-14 ans représentent plus de 13% de la population de l'île-lieu. Quel est votre programme vers ce public, Sybille ou Patrice?
Déjà, on veut maintenir nos services jeunesse et le point info famille à Saint-Sauveur afin d'y conserver la vie sociale et économique du bourg. On aimerait construire une halte garderie rue Clémenceau afin d'augmenter la capacité d'accueil. On aimerait aussi solliciter l'avis des parents, encadrants et enfants sur les lieux de la reconstruction des traînebottes. Alors nous, on avait deux petits avis, soit au petit Chiron, soit au complexe sportif. Comme ça, les enfants au complexe sportif, ils ont tous les cadres de sport à côté. On aimerait aussi soutenir équitablement les deux écoles auxquelles les îlets sont très très attachés. On a aussi discuté d'organiser avec les écoles un conseil municipal des jeunes afin de les associer au projet de l'île.
Ça a déjà existé, les conseils municipaux jeunes?
C'est une bonne question. Roland, tu as compris qu'une partie de notre programme était basée sur ce qu'on a construit. En 2000, on a construit avec Maurice une philosophie,
Maurice
une façon de travailler. Oui, Maurice Coustillère. Et tout simplement, moi, c'était mon mentor. Donc, j'ai eu 20 ans d'apprentissage, mais les 7 premières années, je les ai faites avec Maurice. Donc, je m'appuyais en partie sur tout ce qu'il a pu mettre en place pour aller dans le même cadre. Et effectivement, le conseil municipal enfant, c'est très, très demandé maintenant. Et les jeunes ont envie de s'impliquer dans la vie locale.
Conseil municipal jeune, à partir de quel âge?
Le conseil municipal jeune, on peut le faire dès l'âge de 10 ans, 12 ans. Mais on peut le faire un peu plus jeune si on le souhaite. À partir de 8 ans, c'est possible, mais disons que l'âge de 10-12, c'est l'âge idéal.
Sybille Groisard, un avis sur ce conseil municipal jeune? C'est important pour vous également?
Oh oui, c'est important, oui, parce que je pense que les jeunes peuvent s'impliquer sérieusement dans tous ces projets.
Les autres projets pour ces 0-14 ans, Sybille?
Alors, on voudrait faciliter le déplacement sportif et médicaux sur le continent en travaillant à améliorer les horaires de bateaux pour les mercredis et les week-ends. Alors, on aimerait avoir des bateaux en milieu de journée pour faire des demi-journées. Et on aimerait favoriser les échanges entre les vacanciers et les îlets au travers du service jeunesse.
Patrice?
Oui, je voulais faire une petite remarque. Tout comme le quartier des usines, où on va travailler sur deux scénarios. Et tout à l'heure, on parlait du dynamisme économique. C'est important pour nous, il faut créer de l'emploi. Créer d'emploi encore. Et le logement, il faut en avoir un maximum. Mais aussi, ce qu'on souhaite par-dessus tout, comme on prône la démocratie participative, pour nous, c'est important d'imaginer deux scénarios. Donc on présentera au niveau des quartiers d'usine deux scénarios, tout comme le trainbot dont tu viens d'évoquer, hein, c'est pour ça que j'insiste. Le trainbot, aujourd'hui, vous avez un projet qui est sur le Petit Chiron, et aujourd'hui, vous avez donc une solution dite provisoire qui est au niveau du complexe sportif. Et on regarde des témoignages de certains encadrants, on regarde des témoignages des parents, des enfants, pour nous, il est opportun de demander leur avis en vue d'effectivement une restructuration définitive. Vous l'avez bien vu, c'est un atout qui est indéniable. Les enfants sont dans un cadre extraordinaire. Vous avez la forêt à côté, vous avez les complexes sportifs, et puis vous voulez aller chercher vos enfants en toute quiétude sans vous retrouver dans une impasse.
Quelles sont, selon vous, les priorités afin d'aménager le territoire et rendre le cadre de vie plus fonctionnel et agréable?
Il y a beaucoup à faire, mais...
Qu'il y a beaucoup à faire.
Oui, il y a encore beaucoup à faire, parce qu'on a fait déjà beaucoup. Mais ce qui est bien, depuis 20 ans, on a beaucoup travaillé, parce qu'il ne faut pas renier le travail qui a été fait. Je tiens à le dire, je profite de votre interview pour le signaler. on a fait de belles choses, mais il reste encore des choses à faire. Donc, pour la rendre plus accueillante, par exemple, c'est au moins la mobilité douce. C'est à nous de développer beaucoup plus de chemins cyclables, beaucoup plus de séparation de flux. Donc, notre volonté aussi, c'est aussi d'avoir un plan de gestion des espaces naturels pour qu'effectivement, eh ben, à un moment donné, avoir des sentiers de randonnée acceptables avec une signalétique cohérente, même si il y a beaucoup qui a été fait.
Le GR80 existe déjà sur les lieux.
Le GR80, et vous avez 5 centres de randonnée. Mais on a encore une marche à suivre parce qu'effectivement, on peut aussi développer un itinéraire équestre. Hein, on a de la demande, et ce qui serait très intéressant. Mais effectivement, l'objectif fondamental, c'est effectivement la séparation des flux pour la sécurité, au moins des vélos. Quand on parle de, effectivement, qui sont les outils et quels sont les projets qu'on peut mettre en place pour rendre le territoire beaucoup plus, on va dire, attractif, mais on pense tout de suite, nous, à une salle polyvalente qui peut avoir une contenance supérieure à celle qu'offre le casino. Pour nous, on l'a mis dans notre programme, et on souhaite bien, dans ces 6 années, voir la construction de cette salle. Alors le lieu, pour nous, on le souhaite l'implanter au niveau du fort de Pierre-Levé, en lieu et place de la salle Louis Michaud, donc on retirera le chapiteau, donc je tiens à le dire à votre antenne. Néanmoins, là c'est pareil, on fera une consultation citoyenne, car on peut très bien imaginer aussi d'avoir une salle polyvalente bord de mer, genre au niveau des quartiers des usines. Mais qui dit attractivité du territoire, rendre le territoire fonctionnel, agréable, c'est aussi de construire une maison du patrimoine, car notre objectif, c'est effectivement sachant que nous n'allons pas faire l'espace culturel au Petit Chiron, nous souhaitons créer notre maison du patrimoine qu'on souhaite faire au PU. Hein. Au PU, on dispose déjà de plus de 300 mètres carrés de bâti. Certes, c'est du bâti ancien qui fera l'objet de rénovation. Mais sur ce lieu-là, eh ben, on va installer tout notre service patrimoine. On va mettre notre salle d'exposition. On aura aussi nos archives et évidemment un espace pour la lecture publique. Et la bibliothèque est importante. Aujourd'hui, elle est à l'école du Ponant. Ils sont un peu à l'étroit. Donc, c'est important de libérer l'espace et ça fera partie de nos priorités de notre mandature si nous sommes élus concernant cette maison du patrimoine. Je continue concernant l'activité de notre territoire. Voilà, nous avons fait une enquête en 2003, une enquête qui montrait effectivement quels sont les besoins, et c'est important, et je pense qu'on doit aller encore plus loin dans la démarche. C'est pour ça que avant chaque projet important, on demandera à l'ensemble des administrés leur avis. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Et par exemple, je vais vous parler de la piscine. La piscine vient toujours sur les lèvres. Quand on a fait une consultation citoyenne en 2003, 63% des îlés voulaient une piscine, contre 1% voulaient une médiathèque. Pour vous dire, voilà, mais c'était en 2003, peut-être que les pourcentages pourraient changer maintenant. Mais néanmoins, les témoignages qu'on a des parents, des enfants, des enseignants, des personnes âgées, nous disent, mais attendez, c'est bien, vous faites plein de projets, mais on a besoin d'une piscine. Aujourd'hui, nos enfants partent sur le continent pour apprendre à nager. C'est pas possible. Donc, nous avons déjà sollicité 2 structures privées pour effectivement créer une piscine.
Ce que vous voulez faire, c'est un mix privé-public.
C'est un partenariat. C'est un partenariat public-privé. Là-dessus, on a échangé avec 2 structures. Si celle-ci, on ne trouve pas de compromis et on n'arrive pas à le faire, pour nous, on préférerait, parce qu'on pourrait faire une piscine de plus grande taille et effectivement partager les coûts pour les uns pour les autres, ça serait 1$. Donc, ça serait plutôt intéressant. Sinon, si on n'y arrive pas, là, je prends l'engagement qu'on en construira une. Alors, on ne construira pas une identique à celle du Pays de Vie qui fait 12 millions d'euros. Non, attention. Hein. Mais construire une piscine, si on est capable de faire du porte-à-porte, d'aller chercher des fonds au niveau de la Fondation du Patrimoine pour réhabiliter une église à hauteur de 200 000 euros, eh bien, je peux vous dire que s'il faut faire du porte-à-porte pour aller chercher des fonds pour financer une piscine, j'irai. Après, il ne suffit pas d'une piscine de grande, grande, grande ampleur. Ce qui est important, on est capable de faire une piscine de moyenne taille, mais après, ça sera ces choix budgétaires. Si on fait une piscine, il y a certaines choses qu'on ne fera pas.
Quelle chose que vous ne feriez pas si ce projet de piscine aboutit?
Alors, d'abord, on reste optimiste avec les contacts qu'on peut avoir avec ses partenaires, ça c'est un premier temps. Et puis, les projets qui ne pourraient pas se faire, c'est-à-dire, avoir de l'ambition dans le quartier des usines, il y aurait peut-être une salle polyvalente qui serait de moins grande taille, mais encore c'est pas l'objectif. Hein. Et en tout cas, c'est important de nous tout étudier, car une piscine, si on veut tous les équipements, ça coûte assez cher à l'investissement, mais ça coûte surtout cher au fonctionnement. Donc avant de se dire, si on fait une piscine, c'est au détriment de choses, ça veut dire que il faudra peut-être faire des efforts au niveau de certains budgets, hein, justement, pour vraiment équilibrer le tout.
Patrice Bernard, vous nous avez parlé de modifier les flux de circulation, entre les voitures et les vélos, grâce à une piste cyclable, par exemple.
Oui. C'est un projet qu'on mène depuis 3 ans. Comme tout projet communaux, les projets sont longs et fastidieux. On a souvent du mal à faire sortir un projet. Aujourd'hui, on a déposé un dossier depuis 3 ans, donc je fais partie de l'équipe sortante, donc je faisais partie en tant qu'adjoint à l'environnement du dossier. Je traitais ce dossier au même titre que d'autres personnes, je tiens à le souligner. Et donc l'objectif, c'est d'avoir cette boucle cyclable qui part de Port-Joinville, qui passe par Fort de Pierre-Levé, et à un moment donné, on l'oriente vers la bergerie, le château, et pour revenir à la Meule et la Croix.
Cette piste cyclable serait finalisée quand ? Ou pourrait être finalisée quand ?
Si tout va bien, dans les 2-3 ans qui viennent, elle pourrait être finalisée. Mais il fallait au-delà de ça. On parle de cheminement cyclable, c'est une bonne chose, mais quand on parle de séparation des flux, il faut aller encore plus loin. C'est-à-dire, nous, on souhaite aussi de prendre un... vous avez la boucle, mais aussi, il faut des itinéraires transversaux, c'est important. Quand les gens viennent à la journée, par exemple, les visiteurs d'un jour, ils viennent, vous remarquez, ils sont toujours deux heures avant le départ du bateau, ils ont peur de louper parce que, effectivement, on n'a pas une signalétique directionnelle cohérente. Donc, c'est important de voir une signalétique directionnelle cohérente.
Ce que vous nous dites, c'est que les personnes qui viennent sur les lieux sont un petit peu perdues.
Tout à fait. Ah oui, ils ont besoin de repères. Ce qui est important, c'est d'avoir une signalétique avec un temps donné, que vous soyez à pied ou à vélo, pour effectivement, ils ont un peu de repères. Et c'est surtout leur crainte et leur peur. Mais quand vous parlez effectivement de mode doux, qu'on souhaite développer pour la sécurité de tous, on va aussi étudier aussi la possibilité d'avoir un itinéraire cyclable du côté de la Pointe du But. Au moins, il existe déjà, je tiens à le dire, il existe déjà, mais on va avoir un revêtement assez décent où on est capable de passer toute l'année, car on voit en cette période de l'année, c'est quand même assez humide. Et parallèlement, quand on parle cheminement cyclable, et on parle aussi, surtout sécurité, quand on voit séparation des flux, quand vous regardez la rue Pierre-Henri, pour pas la nommer, il y a des problèmes de cohabitation. Vous avez quand même plus de 6000 véhicules sur l'île, il faut le reconnaître, et il y a énormément de vélos. Quand vous arrivez à 30 ou 35 000 vélos, c'est assez compliqué. Donc on mène un échange, pas un combat, parce que c'est pas un combat, un échange avec les services de l'État. Et puis petit à petit, dernièrement, ils nous ont dit on comprend l'intérêt général depuis le temps qu'on nous sommes en train de le dire, et là ils sont favorables qu'on puisse avoir un accès en haute plage du Kerchalon. Alors ça serait, on va pas mettre une autoroute sur la plage du Kerchalon, attention, mais qu'on ait on ait la possibilité d'avoir une structure en dur de taille mesurée, c'est-à-dire 2 mètres, 2 mètres 50 de large, pour qu'on puisse passer en toute sécurité sur cet axe-là, afin de désengorger, si on peut s'appeler, la rue de Pierre-Henri.
La rue Pierre-Henri, c'est une des rues les plus dangereuses de l'île-Dieu.
Elle est accidentogène, on peut pas le nier. Elle est dangereuse dans le sens que c'est l'axe principal pour aller à Saint-Sauveur, oui.
Autre sujet à débattre avec vous, quel regard portez-vous sur l'écologie et la transition énergétique ?
En tant qu'adjoint à l'environnement, on a travaillé sur plein de sujets.
La redevance incitative.
Oui, mais effectivement, on va en parler avec plaisir. Mais l'écologie, ce n'est pas que la gestion des déchets. L'écologie, c'est aussi, c'est mieux isoler ses maisons, c'est de tout mettre en place, effectivement, ça existe déjà. Et nous, on souhaite le poursuivre, effectivement, dans le cadre de la rénovation de l'habitat. C'est aussi de tout mettre en place pour avoir des maisons moins énergivores, d'aller sur l'autonomie énergétique, pourquoi pas. On le voit sur un quartier qui a vu le jour au niveau du Carpissotte, hein, et c'est toujours intéressant. Ce qu'on produit sur place, on le renvoie aux voisins, et c'est très riche. Alors, dans le cadre de tout ce qui est énergie, écologie, C'est aussi, on souhaite promouvoir, et on ira plus loin, donc les dans tous les bâtiments publics, la pose de panneaux solaires, mais pas que. C'est-à-dire aussi des citernes pour la réception d'eau. On le voit en ces périodes de l'année qui sont très pluvieuses. Et l'eau, même si aujourd'hui il pleut beaucoup, sera une denrée rare pour l'avenir. Vous m'avez parlé de déchets, on va parler aussi déchets, économie circulaire, il est important. Ce dossier, effectivement, a fait couler beaucoup d'encre ces 3-4 dernières années. Je peux vous dire, c'est un dossier qu'il fallait être courageux. Je tiens à saluer l'ensemble des agents qui ont travaillé sur ce dossier. Nous, les élus, on donne des objectifs. Et ensuite, il faut pouvoir les réaliser. Mais pour les réaliser, les agents sont souvent menés à rude épreuve, il faut le dire. Donc la redevance incitative est en place. Elle fonctionne. Mais néanmoins, il y a des ajustements à faire. Comment des ajustements à faire? On le voit au côté sanitaire, en période estivale. En période estivale, les gens ne souhaitent pas garder leur poubelle 3 semaines ou 1 mois, bien souvent, pour des raisons sanitaires, je viens de le dire. Donc, nous, on souhaite mettre en place, dans ce trimestre d'été, dans le forfait, des délevés supplémentaires, que ce soit pour la collecte en porte-à-porte ou également pour l'apport au compacteur solaire. On le fera pareil également pour l'agravaire et la déchetterie, où on va permettre dans ce forfait, à des périodes de l'année, d'avoir un peu plus d'accès. Parler aussi de redevance incitative, c'est aussi, il faut le reconnaître, si à ce jour on produit 500 tonnes de déchets en moins qu'il y a un an et demi, c'est en partie dû au travail de chacun. Comme on dit chez nous, le mot est fort. Mais c'est le travail qu'on fait, c'est pour nos générations futures, c'est pour nos enfants. Il fallait être courageux pour se lancer dans cette démarche. Oui, c'est pas parfait. Oui, on va faire des réajustements. Les réajustements, c'est-à-dire, comme je dis, forfait. On va travailler sur des collectes au niveau de certaines corporations pour les collectes les samedis, hein, pour les départs de bateaux. On souhaite y installer un troisième compacteur ou des systèmes plutôt hors sol ou en sous-sol, mais on le voit sur les lieux, en système sous-sol on a des problèmes de génie civil, mais toujours avoir des compacteurs solaires, encore faut-il qu'ils fonctionnent correctement. On a eu pas mal de désordres ces derniers moments. Néanmoins, il faut être positif, je dis bien positif, parce que demain on a vu cet hiver, on a une carence en soleil, donc ils seront branchés à l'avenir l'hiver. Et on va tout faire pour mettre un dispositif avec carte bancaire ou application pour avoir facilité d'ouverture de tambour.
Si les personnes mettent moins souvent leur poubelle, est-ce que cette redevance incitative va baisser le tarif?
Oui, inévitablement. Cette année, on n'a pas baissé les coûts parce qu'on s'est donné comme objectif d'investir sur une recyclerie. La recyclerie qui va permettre... il va permettre une économie d'expédition de nos déchets d'à peu près de 100 tonnes chaque année. Quand vous voyez la tonne, et on est à 220 € la tonne en moyenne, ça veut dire que c'est quand même des économies qui sont assez intéressantes. Et effectivement, donc c'est doublement intéressant parce qu'aujourd'hui tout va dans la benne du tout venant qu'on envoie sur le continent, et demain la plupart de ces tonnages que je viens d'évoquer iront en recyclerie, où demain on va redonner une deuxième vie à ces produits.
Recyclerie sur la zone artisanale de Marche?
Oui, à proximité du centre de transfert. Donc c'est un outil qui devrait être opérationnel d'ici 7 à 8 mois. Intéressant dans le sens où on a fait en sorte de disposer d'emplois complémentaires dans le cadre des chantiers d'insertion. Nous sommes allés à la directe et on va passer de 6 emplois d'insertion à 10. On en a obtenu 4 supplémentaires. Le fait qu'on crée une recyclerie, qu'on développe le réemploi, qu'on va permettre à ces travailleurs de pouvoir travailler à l'abri à des moments donnés. Donc c'est très intéressant. Mais quand on parle de redevance incitative, économie circulaire, c'est nos achats. C'est important. Si on achète local, si on fait en sorte de favoriser effectivement des achats, des circuits courts, si on fait en sorte effectivement de disposer de composteurs. Je vous donne un chiffre. On est passé de 900 composteurs à 1700 composteurs actuellement. Ce qui montre une réelle dynamique à vouloir trier nos biodéchets. Les biodéchets, c'est vraiment la source qu'il faut éviter de mettre à la poubelle. Et là-dessus, les îlets ont fait vraiment un gros, gros travail. Donc, c'est
biodéchets, important. Par exemple, les coquilles d'œufs.
Les coquilles d'œufs, ce qu'on appelle biodéchets, c'est les épluchures de légumes. Et tout ça. J'attire aussi votre attention Notre objectif est vraiment, vraiment, vraiment de faire baisser la facture. Et je peux vous assurer que dans les 2-3 ans qui viennent, là-dessus, on ne l'augmentera pas, mais je mettrai tout en œuvre pour faire baisser les coûts. Alors effectivement, nous allons avoir un nouvel appel d'offres concernant la gravère et la déchetterie à terme. Mais néanmoins, c'est important de bien maîtriser les coûts de fonctionnement pour que chacun y retrouve son compte.
Vous nous avez parlé d'économie par des citernes, par exemple, ou des panneaux solaires. Est-ce compatible avec le PLU ?
Alors, souvent, les gens font référence le PLU ci, le PLU là. D'abord, je voudrais dire une autre chose. L'île-Dieu, depuis 6 ans, déjà, depuis 6 ans, dispose d'un PLU. Enfin, un outil de travail. Il a fallu attendre 30 années avant d'avoir un outil de travail. Et bien souvent, on voit, regardez, rappelez-vous, il y a 6 ans, le PLU, on avait beaucoup de personnes qui apportaient un jugement qui n'était pas toujours positif. Et on leur disait, tout comme l'ARI d'ailleurs, on disait, soyez positifs, laissez le temps d'adaptation. C'est comme la réunion initiative, on fera des modifications. Le PLU a fait l'objet déjà d'une modification, on part sur une deuxième, ce n'est pas figé. Le PLU, il a une espérance de vie de 10 ans, et le PLU, derrière, il n'y a pas eu un recul dans l'emploi. Et le PLU, aussi dans le traitement des dossiers, l'année 2019, nous avons traité plus de 400 dossiers de permis de construire, ce qui est énorme, ce qui est l'équivalent d'une ville de 30 000 habitants. Alors évidemment, on nous dit, mais il faut stopper. Quelqu'un qui a un terrain à bâtir, comment puis-je lui dire qu'il va construire dans un an ou dans deux ans, parce qu'effectivement, ça va trop vite. Et voilà, donc c'est le PLU, il a le mérite d'exister, on peut l'affiner, donc on l'affinera, et dans le cadre de sa révision qu'à l'horizon 2024, notre objectif, c'est d'aller vers une révision dite partielle, comme on le mentionne sur notre programme. Pourquoi partielle ? Ça veut dire qu'on ne veut pas bouleverser les zones urbaines et on n'y touchera pas. Ça veut dire que voir si on peut créer d'autres réserves foncières complémentaires pour l'avenir, étendre les sièges agricoles, ce qui est important, parce qu'aujourd'hui, on a une dynamique qui s'est créée autour de cela. Revoir certains emplacements réservés. Et puis, à un moment donné, ce qui est important, c'est tout le volet hydraulique et avec les fosses et les fossés, où là, il y a quand même pas mal de problèmes dans ce cadre-là.
Le tourisme a des impacts positifs et négatifs dans ce cadre de vie. Est-ce dans vos projets, si vous êtes élu, d'essayer d'analyser ce tourisme ?
Alors, comme je parlais en aparté tout à l'heure, de renforcer ce tourisme, le tourisme est notre première économie de l'île. Il est important, nous, de le préserver au printemps, de là, effectivement, de tout faire au printemps, c'est de travailler avec les acteurs locaux, de travailler avec un partenariat donc, avec l'UCA et l'ensemble des commerçants et artisans pour développer une offre beaucoup plus attractive de notre territoire. Et il y aura comme ça qu'on avancera sereinement, si on est capable de travailler tous ensemble. Aujourd'hui, malheureusement, chacun travaille dans son coin. Et c'est ce qu'on reproche.
Allez-vous, durant ces 6 prochaines années, si vous êtes élu, impliquer les résidents dans les projets et décisions importantes pour l'île-Dieu ?
C'est notre philosophie, mon cher Roland. Hein, on l'a dit, hein, nous, tout ce qu'on souhaite mettre en place, je tiens à le dire, hein, je vais me répéter dans notre méthode, c'est travailler dans l'échange, le respect et le dialogue. Ce qu'on souhaite faire, c'est effectivement, pour aller au sens large, hein, c'est réactiver le réseau de construction de quartier, c'est organiser des réunions publiques annuelles, ce qui est important, c'est accélérer les diffusions des informations, c'est nommer un élu référent auprès des résidents secondaires, des exilés, des travailleurs saisonniers, et utiliser votre radio Neptune FM pour débattre des sujets importants et préserver les actualités municipales. Ce qui est important, c'est aussi, vous l'avez dit, c'est consulter la population avant chaque projet important. On ne peut rien faire seul. On le voit bien aujourd'hui où on est divisé par rapport au projet de médiathèque, ce qu'on appelle espèce culturelle. Nous, je tiens à le dire devant votre antenne, parce qu'on entend tout. Et nous, on souhaite, pour différentes raisons, ne pas le faire sur le Petit Chiron, on vous l'a dit tout à l'heure pour des raisons de santé, car la santé, comme on vous le disait, il va y avoir l'extension de l'hôpital dans le cadre du pôle santé, on aura besoin de stationnement, les accès sont primordiaux pour pouvoir y accéder, et là-dessus, si demain on utilise tout le foncier, eh ben, au niveau des soins et dans le cadre regroupement des EHPAD, et tout ce qu'on a besoin autour de l'ensemble de nos administrés, on se tire une balle dans le pied.
Ce que vous dites, il n'y a pas assez de parking.
Alors,
pour tout regrouper.
Regardez, si demain vous avez le pôle santé, le regroupement des EHPAD sur le même lieu, vous avez le Trainbot, vous avez la médiathèque, comment on peut définir une stratégie à long terme et d'avoir une cohérence au niveau portuaire si nos parkings sont sans arrêt comblés par des véhicules. Donc vous voyez, on a un parking au niveau portuaire, c'est quand même assez bien situé. On a le parking de la chapelle où on va refaire tous les héliports, hein, je tiens à le dire, et tout ce qui doit être mis aux normes pour que l'hélicoptère ait enfin un héliport dit ministériel. Donc c'est d'avoir un parking adéquat au niveau est, du côté du parking Neptune, c'est aussi d'avoir un parking à proximité donc du petit Chiron, à proximité de l'église. Donc l'église, effectivement, certains m'ont fait rire, me disaient mais on va écrouler l'église. Non, non, l'église, on a la volonté de réhabiliter l'église, je tiens à le dire. Et puis donc on a pas mal de travaux de rénovation dans l'église de Port-Joinville, mais aussi il y en a tous les travaux du parking qui est à proximité à définir. Et si derrière nous mettons trop de projets sur le même lieu, eh ben on aura un problème de saturation.
Si vous êtes élu, quelle serait votre première mesure?
Il y en a plein. Non, mais la première des mesures, c'est d'abord réunir l'ensemble des élus et des agents pour définir notre feuille de route. Ça, c'est la première chose. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, on va pas se lancer dans la construction de la maison du patrimoine ou se dire il faut aller tout de suite dans le quartier des usines où effectivement, le quartier des usines, vous avez bien compris, on fera pas tout seul, il faudra un partenariat public-privé, ce qui est important, définir un cahier des charges pour une bonne orientation. C'est-à-dire, on définit une feuille de route, on assemble toutes nos forces vives, c'est-à-dire nos responsables techniques, les élus, et à partir, on définit notre projet pour les 6, 10, 15 ans à venir, car la commune ne doit pas avoir un regard sur les 6 ans qui viennent, mais sur les 10, 20 et 30 ans et beaucoup plus.
Si je vous ai bien compris, le projet de centre culturel au Petit Chiron est vraiment abandonné, si vous êtes élu.
Voilà. Non, alors, le projet de centre culturel au Petit Chiron est abandonné au Petit Chiron. Nous, on souhaite y intégrer une maison du patrimoine, et c'est comme ça qu'on l'a formulé dans notre programme que vous avez reçu il y a une quinzaine de jours. La maison du patrimoine, pour la bonne et simple raison, quand vous voyez l'espace culturel, même si vous avez des subventions qui sont importantes, ils le seront tout autant sur l'implantation du PU. Je vous rassure tout de suite, on entend tout et n'importe quoi. Quand vous avez un contrat avec la région, quand vous avez un contrat avec le département, ce sont des aides financières qui sont établies pas sur un lieu, mais sur un montant. Donc à partir de là, que vous faites votre projet au Petit Chiron ou au PU, il est pareil, sauf qu'au PU, on le fera de taille raisonnable et on n'aura pas un espace culturel à plus de 4 millions d'euros comme il est proposé sur le site du Petit Chiron.
4 millions d'euros, la liste, votre liste opposante dit 1 million d'euros.
Oui, mais la liste opposante dit 1 million d'euros, mais ils disent ce qu'ils veulent à un moment donné. 1 million d'euros, mais parce qu'il y a des subventions. Voilà, encore les subventions, on n'est pas toujours sûr de les tenir. Il faut quand même investir l'argent dans un premier temps, et les subventions, on l'a dans un second. Et c'est pas parce que effectivement vous avez des subventions importantes et qu'il faut faire des travaux à hauteur de 4 millions d'euros. J'attire votre attention. On peut faire un projet à 10 millions d'euros si on est subventionné à 10 millions d'euros, mais in fine, c'est pas l'objectif. Ça reste de l'argent public. Oui, il y a des aides financières. Mais c'est pas pour autant qu'il faut effectivement l'argent qu'on n'utilise pas à cet endroit-là, on l'utilisera ailleurs.
On l'a bien compris, vous avez différents projets, pas mal de projets. Comment allez-vous financer ces différents projets?
D'abord, c'est une très bonne question. Parce qu'effectivement, on peut avoir tous les projets du monde, encore faut-il les financer. On a un budget de fonctionnement de la commune à hauteur de 13,5 millions d'euros. Quand vous avez, payer toutes nos charges qui sont nos impondérables, effectivement, on a un pouvoir, une capacité de financement qui est à hauteur de 6 à 7 millions par an. Donc, c'est pas non plus extraordinaire, même si en ce moment, les taux d'intérêt sont relativement peu élevés. Il faut reconnaître à ce niveau-là que nous disposerons sur les 6 ans à venir, parce que c'est 6 ans que si les, l'ensemble des administrés nous accordent, on a, voilà, on a une enveloppe à peu près de 40 millions d'euros. Donc et ces 40 millions d'euros, évidemment, c'est notre possibilité de financer, mais derrière, vous inquiétez pas, je prendrai j'irai à deux mains, j'irai à trois mains, voilà, chercher des subventions, que ce soit à la région, au département, à Paris et ailleurs, et on saura trouver des financements pour tous nos projets. Et là, pareil, c'est une volonté que nous avons d'afficher, et on a suffisamment de personnes compétentes au sein de notre équipe pour mener à bien ce projet.
Pas simple tout de même de trouver ces subventions pour ces différents projets.
Oui, mais c'est des échanges avec la région, et c'est des échanges avec l'État, c'est des échanges avec le département. Chaque année, que ça soit le département, les régions, il y a des enveloppes pour chaque territoire. Hein, donc c'est à nous de faire la demande. Et puis effectivement, bien souvent, les demandes sont tout est fléché sur un montant, Et après, nous on met les projets qu'on souhaite. Hein. Donc à partir de là, une fois qu'on a mis tous ces financements, tous ces projets par rapport aux aides qu'on nous octroie, et ben à partir de là, on fait nos choix.
Dernier sujet abordé avec vous, il reste 3 minutes 23 pour être précis, sur la sécurité, la police municipale et les pompiers. Quelles sont vos idées ou vos envies?
Donc la sécurité, on le voit des périodes de l'année et voilà, c'est un peu... On a un peu du tout et du tout et n'importe quoi en période estivale, hein, mais il faut quand même reconnaître que par rapport au niveau de la population, nous n'avons pas tant de désordre que ça. Donc il faut aussi, on a des soucis sur le port à des moments donnés. Donc,
l'été alors, surtout, non?
Surtout en période estivale, il faut le reconnaître. Il est de notre devoir de mettre en disposition nos services de police municipale de renforcer les services à des périodes de l'année. On souhaite aussi qu'ils travaillent sur tout le territoire. On ne doit pas aussi focaliser notre attention essentiellement que sur Port-Joinville. Alors, vous avez vu qu'ils vont mettre des caméras. Oui, nous allons installer des caméras sur le port, mais aux endroits sensibles. Nous souhaitons se privilégier, c'est dans le biais de ces caméras. On n'est pas là pour faire une surveillance des biens, enfin des personnes, mais c'est surtout des biens et au niveau surtout de la filière pêche.
Vous allez installer des caméras?
Oui.
Est-ce que vous allez renforcer la police municipale?
La police municipale, aujourd'hui, on a 7 agents qui travaillent en saison et nous avons 2 à 3 agents qui travaillent en période hivernale. Hein. Et on a surtout 2 agents et on les renforcer par une personne ou deux de temps à autre. Mais l'objectif, si on veut maintenir la sécurité sur l'ensemble du territoire, on sera obligé de se donner les moyens, sans doute, d'embaucher une personne supplémentaire, oui.
Il reste 2 minutes à cette interview. Pourquoi voter pour vous?
Pourquoi voter pour nous? Tout simplement parce qu'on insuffle un nouvel mode de gouvernance, une nouvelle dynamique, des jeunes qui ont vraiment envie d'œuvrer pour leur territoire, des jeunes et des moins jeunes qui souhaitent s'investir pour tous, des femmes et des hommes qui souhaitent solliciter l'avis de tous, de travailler avec les associations, de travailler avec les professionnels, de travailler tous ensemble pour un projet. C'est pas une liste de 27 élus qui vont tout décider, non, pas du tout. Pourquoi voter pour nous? Car effectivement, le projet de Lille, c'est le projet des îlets et c'est le projet qui nous tient à cœur. Et voilà, nous avons disposé d'un peu de temps. Il y aurait tant à dire pendant des heures et des heures, mon cher Roland. En tout cas, pourquoi on invite tout à chacun à voter pour nous? C'est effectivement, c'est une démarche... une démocratie participative, je bafouille, mais néanmoins, je tiens à dire que ce qu'on incarne demain, on l'a vu sur nos réseaux, notre forme de communication, sur le réseau Internet et sur notre page Facebook, sur tout ce qu'on a pu mettre en place, en valeur. On lance une nouvelle dynamique et une nouvelle fraîcheur et nous avons de bons retours et nous sommes confiants pour l'avenir car les îlets sont très attachés à leur territoire, très attachés à leur avenir, et on fera tout pour ne pas les décevoir.
Sybille Groisard, un dernier mot, peut-être?
Non, je ne sais pas trop quoi vous dire. Patrice a très très bien parlé. C'est vrai qu'il nous a bien expliqué les choses. Moi, ce que je peux dire, c'est que dans l'équipe, j'ai trouvé une communication enrichissante. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de me mettre aux côtés de Patrice et de... et de foncer pour la commune.
Merci Sybille Grosjard et merci Patrice Bernard de la liste Mieux Ensemble. À très bientôt.
Merci, merci, au revoir et bon courage à vous.
Au revoir.
C'est pas évident de parler.